les enfants de Cronos. Bonjour à tous, chers auditeurs, Colabilo, archéologue. Bienvenue dans le quatrième épisode de notre série consacrée aux châteaux médiévaux du Valois. Aujourd'hui, le château d'Armentières-sur-Ourcq. Au fond de la vallée de l'Ourcq et voisiné par le Rugarnier, se dessine timidement au-dessus des labours le château d'Armentières-sur-Ourcq, classé monument historique en 1921. Les anciens n'auraient pas dit château d'ailleurs, ils auraient dit maison forte, puisque juridiquement, il n'a jamais été le siège d'une châtellenie et n'est d'ailleurs mentionné dans les sources anciennes que comme maison. Architecturalement, bien sûr, il est considéré aujourd'hui comme un château, bien qu'il se situe plutôt entre la maison bourgeoise urbaine à plan ramassé et le canon d'architecture philippien dont nous avons déjà parlé, cour carrée, tour circulaire aux angles, porte encadrée de tours, archère, etc. La première mention du site est du XIIe siècle, mais l'architecture actuelle est du XIIIe siècle. Le commanditaire est inconnu. Seuls ses héritiers, Jean et Nicolas, sont mentionnés autour de 1250. L'architecte n'est pas mieux connu d'ailleurs, mais ce devait être un homme compétent, car le programme architectural est très soigné et, à petite échelle, il résume parfaitement tous les éléments que l'on trouve sur les plus grands édifices du temps. Le site se compose de deux cours. Une première, la basse-cour, à usage de service et de ferme, où l'on ne trouve plus qu'une très belle tour-porche du XVe siècle, malheureusement un peu maladroitement restaurée il y a quelques décennies. Et une seconde cour, par opposition à la précédente, la haute cour, la cour noble, qui elle est densément structurée. Pour entrer dans cette haute cour, vous devez d'abord franchir la basse cour, puis vous vous retrouvez face à la façade, face à une porte exceptionnelle. Elle présente un arc en tiers-point et des colonnettes à chapiteaux encadrées de deux tourelles élancées à flèches octogonales aux arêtes à crochets qui n'ont presque rien à envier au plus beau des clochers senlisiens des églises de Montagny-Sainte-Félicité, Versigny ou Baron par exemple. Ces éléments d'architecture sont déjà rares dans les grands châteaux princiers ou royaux, mais plus encore sur des édifices de ce rang, sur ces maisons nobles, rurales. Ils se rapprochent d'ailleurs beaucoup plus du vocabulaire de l'architecture religieuse. L'ensemble de cette porte habille une façade elle-même flanquée de deux puissantes tours aux angles et forme un contrepoint à ces éléments plus militaires. Cas rare encore, mais que nous avons déjà rencontré à Thiers-sur-Thève, l'on constate bien vite que nous avons affaire à un château qui présente son logis en façade et non pas en fond de cour, disposition pourtant fort rare à l'époque. La porte d'accès à la cour traverse donc le rez-de-chaussée, qu'elle divise en deux états, en deux espaces techniques dont l'un est la cuisine et l'autre probablement un cellier. Puisque nous sommes en fond de vallée, nous n'aurons jamais de cave à Armentières-sur-Ourcq. Il faut donc bien stocker ailleurs. Au-dessus prend place la grande salle et sa voisine, la chambre du maître de maison, la chambre du seigneur. À part les archères dans les tours, aucun élément réel de défense. À l'inverse, on trouvera de belles fenêtres à meneaux avec des tympans polylobés, des trèfles, dont la plupart de ces fenêtres seront agrandies au XVe siècle. Pas de chemin de ronde non plus. Au mieux trouve-t-on une petite corniche à modillons sculptés qui témoigne le départ initial de la charpente avant le rehaussement du logis. Car la grande salle et la chambre du seigneur n'étaient pas voûtées, encore une fois. C'est d'ailleurs inhabituel dans les châteaux. Mais elles étaient couvertes d'une charpente lambrissée, qu'il faut peut-être se figurer peinte. En plus venait une belle cheminée dans la salle et un petit oratoire dans un espace voisin, lui par contre voûté d'ogives, qui achevait d'offrir un espace de vie très confortable dans lequel nous trouverons ce que l'on appelle parfois la trilogie castrale, aula, camera, capella en latin, c'est-à-dire la grande salle, la chambre du Seigneur et la chapelle. Les courtines de la haute cour seront reprises au XIVe siècle et on leur ajoutera des élégantes tourelles et choguettes dont certaines sont malheureusement aujourd'hui presque disparues. Mais il faudra sinon attendre le XVe siècle pour constater des modifications importantes alors que l'on approche de la fin du Moyen-Âge. En 1446, Jean II, Juvénal des Ursins, devient propriétaire d'Armentières-sur-Ourcq. Il est déjà avocat et chapelain du roi Charles VII. Il est surtout à cette époque évêque de Laon et bientôt archevêque de Reims. C'est un personnage riche et puissant. Il sera probablement rarement à Armentières, mais il a les moyens et l'envie d'en faire une belle résidence. C'est donc à lui que l'on devra la tour-porche de la basse-cour que nous avons déjà évoquée, ainsi que la construction de la nouvelle enceinte. Il modifie la disposition du logis en ajoutant à l'arrière deux ailes latérales qui déclassent peut-être d'ailleurs l'ancienne grande salle. Malheureusement, de ces nouveaux éléments, peu de choses en restent, ce qui fait penser à certains auteurs que ces éléments étaient en briques ou en matériaux fragiles, peut-être en pans de bois. Au XVIe siècle, enfin, la vieille cuisine du rez-de-chaussée sera voûtée, améliorée, et surtout sera ajoutée à l'enceinte de la haute cour une puissante tour en fer à cheval d'un très gros volume, logeable, qui achève de montrer le déclassement du logis du XIIIe siècle. Les besoins, les attentes des nouveaux propriétaires sont différents, et s'ils aménagent de nouveaux édifices dans le château, ils ne font pas pour autant détruire les belles parties du XIIIe siècle dont ils préfèrent modifier les fonctions. Preuve, s'il en était besoin, qu'il s'agissait d'un ensemble exceptionnel à redécouvrir. Malheureusement, le temps fait son œuvre, la variation des niveaux d'eau a fragilisé les fondations, et il a fallu le courage d'un nouveau propriétaire qui œuvre depuis quelques années à la restauration du site en partenariat avec la DRAC pour pouvoir redécouvrir un ensemble véritablement exceptionnel, une maison forte, un petit château rural, typique de cette architecture du Valois dont beaucoup des représentants ont malheureusement disparu, mais qui mérite que vous alliez en promenade le redécouvrir. Dans le prochain épisode, le château de V.